Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans l'ADN fossile, une machine à remonter le temps, Ludovic Orlando présente la paléogénétique comme une transformation majeure de l'archéologie et de la paléontologie. Publié initialement en 2021 et préfacé par le préhistorien Jean Guilaine. Cet essai de vulgarisation scientifique explique ce que l'étude de l'ADN ancien permet d'apprendre à partir d'ossements, de dents, de sédiments ou d'autres traces matérielles. L'ambition n'est pas de substituer la génétique aux disciplines du passé, mais de montrer comment les données moléculaires renouvellent l'interprétation des fossiles, des migrations, des domestications et des écosystèmes disparus. Spécialiste reconnu de la paléogénomique et de l'histoire du cheval, Orlando associe les principes techniques du séquençage à des études devenues emblématiques, telles que l'identification des Denisoviens. Le livre examine également les limites d'interprétation et les usages sociaux des résultats génétiques, les catégories raciales, l'identité, le genre, les revendications politiques et la restitution des restes humains. Il s'agit ainsi d'un panorama documenté des possibilités, mais aussi des responsabilités de l'archéologie moléculaire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de fragments dégradés à des données exploitables, la logique de l'ADN ancien. Le point de départ du livre est matériel, l'ADN fossile n'est ni intact ni immédiatement lisible. Avec le temps, les molécules se fragmentent, se dégradent et se mêlent à l'ADN de micro-organismes ou de personnes ayant manipulé les échantillons. La paléogénétique doit donc isoler des traces très faibles, reconnaître les signatures de leur ancienneté, limiter les contaminations et reconstituer des séquences à partir d'éléments incomplets. Orlando présente cette chaîne de travail pour corriger une représentation simpliste selon laquelle un os ancien livrerait directement l'histoire de son propriétaire. Le séquençage produit des données qui doivent ensuite être comparées à des génomes de référence, à d'autres individus anciens et à des populations actuelles. Les conclusions dépendent de ces comparaisons et des modèles utilisés. Cette dimension méthodologique explique pourquoi le progrès technique change réellement les questions auxquelles l'archéologie peut répondre. L'amélioration des protocoles d'extraction, l'augmentation des capacités de séquençage et les outils statistiques rendent analysables des échantillons auparavant muets. Le livre insiste aussi sur l'ADN environnemental des sédiments peuvent conserver des traces génétiques, même lorsque les ossements sont absents ou non identifiables. La machine à remonter le temps du titre désigne donc moins une résurrection du passé qu'une procédure d'inférence rigoureuse, fondée sur des traces moléculaires fragiles, contextualisées par les sciences archéologiques et paléontologiques. Deuxièmement, Denisova et Néandertal redessinaient le lignage humain au-delà des fossiles visibles. L'identification des Denisoviens constitue l'un des exemples les plus parlants de la portée de la paléogénomique. À partir d'un fragment osseux très limité provenant de la grotte de Denisova, les analyses génétiques ont révélé une lignée humaine archaïque qui n'avait pas été reconnue comme telle par la seule morphologie. Le cas montre que les classifications fondées uniquement sur la forme et la taille des restes peuvent manquer des branches évolutives ou sous-estimer leur diversité. Pour Orlando, il ne s'agit pas de disqualifier l'étude anatomique des fossiles, mais de démontrer la puissance d'un croisement entre indices biologiques, chronologie des sites et contexte archéologique. Le livre replace cette découverte dans une histoire plus large des relations entre Homo sapiens, Néandertaliens et Denisoviens. L'ADN ancien a mis en évidence que l'évolution humaine ne suit pas un schéma linéaire où une population remplacerait simplement une autre. Les métissages entre groupes ont laissé des traces dans les génomes de populations contemporaines. Cette constatation oblige à penser les frontières entre espèces, populations et lignées comme des objets scientifiques complexes plutôt que comme des catégories fixes. Elle rend aussi plus prudente l'attribution d'une identité biologique ou culturelle à partir d'un seul reste, en faisant de Denisova un cas central. L'ouvrage expose une leçon méthodologique de minuscules archives moléculaires peuvent modifier une vision générale du peuplement humain, à condition que l'interprétation ne dépasse pas ce que les données permettent effectivement d'établir. Troisièmement, migration, agriculture et cheval relier les génomes aux transformations historiques, Orlando étend l'enquête bien au-delà de l'évolution humaine ancienne. La paléogénomique offre des moyens de suivre les déplacements de populations, les changements de parenté et certaines dynamiques démographiques qui accompagnent les grandes transformations préhistoriques et historiques. Ces données peuvent éclairer la diffusion de pratiques agricoles, les contacts entre groupes ou l'histoire de certaines langues, sans pour autant établir mécaniquement qu'un profil génétique correspond à une culture, à une langue ou à un peuple homogène. Le livre met ainsi en garde contre une lecture essentialiste, les gènes documentent des ascendances et des mélanges. Tandis que les identités et les pratiques sociales se construisent également par l'histoire, les institutions et les échanges. l'histoire de la domestication du cheval occupe une place particulièrement légitime dans l'ouvrage, puisque l'auteur a contribué à renouveler ce champ de recherche. L'analyse de génomes anciens d'animaux permet de comparer des populations équines à différentes périodes, de repérer des continuités ou des renouvellements et de reconstruire. Avec les archives archéologiques, les effets des pratiques humaines de sélection et de mobilité. L'animal domestique devient alors une archive des sociétés qui l'ont élevé, échangé et utilisé. Cette perspective souligne l'intérêt de travailler à plusieurs échelles. Le génome ne raconte pas isolément une invention technique ou une conquête, mais il apporte des contraintes factuelles aux hypothèses historiques. L'originalité du livre tient à cette circulation entre préhistoire humaine, histoire animale et histoire des techniques, au lieu de réduire la paléogénétique à la seule quête des origines de Homo sapiens. Quatrièmement, épidémie. Mammouths et sédiments, une histoire génétique des écosystèmes disparus, l'ouvrage montre que l'ADN ancien ne concerne pas exclusivement les restes d'humains. Les génomes d'animaux, de végétaux et d'agents pathogènes, ainsi que l'ADN préservé dans les sols, élargissent l'enquête aux environnements passés. Cette approche permet de reconstituer la présence d'espèces dans un lieu, d'observer des changements de biodiversité et d'interroger les mécanismes des extinctions. Les exemples du mammouth laineux ou de l'ours des cavernes servent à rappeler qu'une disparition ne se laisse pas toujours expliquer par une cause unique. Climat, démographie, diversité génétique, fragmentation des habitats et pression humaine peuvent interagir. Les données moléculaires aident à tester ces hypothèses sans abolir l'incertitude. La même logique vaut pour l'histoire des maladies. L'identification d'ADN de pathogènes dans des restes anciens ouvre la possibilité d'étudier l'évolution de certains agents infectieux et leur circulation dans les populations du passé. Toutefois, retrouver une séquence ne suffit pas à reconstituer à elle seule une épidémie, il faut l'articuler aux datations, aux conditions de conservation, aux sources historiques et aux indices archéologiques. Orlando valorise précisément cette prudence interprétative. L'ADN sédimentaire, qui peut révéler des organismes sans fossiles visibles, représente une avancée décisive mais exigeante, car les couches de sol peuvent être perturbées et les signaux génétiques très ténus. Le livre transforme ainsi l'idée de fossile, l'archive du vivant ne réside plus uniquement dans un squelette identifiable, mais aussi dans des traces dispersées qui permettent de reconstruire des communautés écologiques et leurs changements dans le temps. En dernier lieu, quand les résultats génétiques deviennent politiques race, genre, identité et restitution. Une part importante de l'intérêt du livre réside dans son attention aux conséquences publiques de la paléogénomique. Les résultats sur les populations anciennes peuvent être mobilisés pour confirmer ou contester des récits identitaires, nationaux ou raciaux. Orlando évoque notamment le cas de l'homme de Cheddar, dont la reconstruction a alimenté des débats sur l'apparence des anciens habitants de la Grande-Bretagne. L'enjeu n'est pas de remplacer un mythe par une image définitive, mais de rappeler que les imaginaires raciaux contemporains ne constituent pas une grille valable pour interpréter les populations préhistoriques. Une information génétique sur la pigmentation ou l'ascendance ne résume jamais une personne, encore moins une communauté historique entière. Le livre aborde aussi le cas d'une sépulture viking longtemps interprétée comme celle d'un guerrier et dont l'analyse génétique a indiqué un sexe féminin. Cet exemple met en évidence la différence entre le sexe chromosomique, les objets déposés dans une tombe et les rôles sociaux que les archéologues infèrent. Il ne justifie pas des généralisations rapides, mais incite à réexaminer les présupposés associés au genre. Plus largement, Orlando alerte sur l'usage sélectif des données génétiques dans les controverses territoriales ou politiques, notamment lorsqu'elles servent à naturaliser des droits, des identités ou des exclusions. Les questions de restitution des dépouilles ajoutent une dimension éthique concrète. L'ADN peut contribuer à documenter des liens de parenté ou d'origine, mais il ne saurait remplacer le dialogue avec les communautés concernées. La force du propos est d'associer innovation scientifique et responsabilité d'interprétation. En conclusion, l'ADN fossile, une machine à remonter le temps, s'adresse d'abord aux lecteurs curieux de préhistoire, d'évolution et d'archéologie. Mais il reste également utile aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent situer la paléogénétique dans un cadre interdisciplinaire. Il ne demande pas une formation préalable poussée en biologie moléculaire. Ludovic Orlando par des problèmes concrets posés par des échantillons dégradés et montre progressivement ce que les analyses génomiques permettent ou ne permettent pas de conclure. Le bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à considérer l'ADN ancien comme une source historique, parmi d'autres, exceptionnellement féconde mais jamais autosuffisante. L'ouvrage se distingue de nombreuses introductions à la génétique par son ancrage simultané dans les laboratoires, les sites archéologiques et les débats contemporains. Les découvertes relatives aux Denisoviens, au métissage humain, au cheval domestique, aux extinctions ou aux pathogènes ne sont pas présentées comme une succession de prouesses techniques. Elles servent à expliquer comment une preuve moléculaire modifie les questions posées aux archives matérielles. Surtout, le livre ne traite pas les résultats biologiques comme des verdicts sur les identités humaines, il examine les risques de simplification raciale, culturelle ou politique. Cette articulation entre clarté scientifique, diversité des terrains et vigilance éthique fait sa singularité. Les lecteurs y trouveront moins un catalogue de résultats qu'un guide raisonné pour comprendre pourquoi l'archéologie moléculaire renouvelle profondément l'étude du passé et oblige à mieux distinguer données, hypothèses et usages sociaux. Si vous souhaitez soutenir Ludovic Orlando, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.